Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
C'est l'heure des bilans, parce qu'on est vendredi et on va commencer avec Nathalie qui nous présente son rapport de la semaine.
Oui, ben une excellente nouvelle provenance de l'Académie qui a confirmé le retour des catégories genrées. Pour les Gémeaux, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle. Il y avait un gros malaise dans l'industrie télévisuelle et je dirais, j'ajouterais un gros malaise aussi dans le public. Vous savez, ces genres de décisions qu'on hésite à, parce que la décision a été prise l'année dernière, qu'on hésite à décrier parce que là, on veut pas passer pour ci ou pour ça. Mais honnêtement, je trouve que ce genre de décision qui a été prise l'année passée d'enlever la catégorie hommes et femmes en interprétation, ben, ne servit personne. Quand tu veux faire dans le trop politiquement correct, ben, tu finis par rater ta cible et c'est exactement ce qu'a fait l'Académie l'année dernière. Alors, bravo d'être revenu sur cette décision. Vous avez certainement vu Donald Trump se débattre devant les tribunaux, devant la Cour d'appel de Washington. Lorsque je l'ai entendu appeler, se servir de la menace comme arme politique, je me suis dit, les Américains sont vraiment dans le gros trouble. Il a franchi une autre étape devant trois juges, la Cour d'appel de Washington. Il a osé menacer les trois juges s'il n'obtient pas un jugement favorable parce qu'il réclame l'immunité pour pouvoir se présenter dans tous les États, entre autres du pays. Et il a dit « Le chaos règnera si la justice rejette ma demande d'immunité ». Je sais pas, je cherchais les mots hier pour traduire son geste. C'est sûr, pour moi, c'est surréaliste et ça dépasse l'entendement, mais je pense que les mots, les qualificatifs que j'utilise ne sont pas suffisamment forts pour traduire à quel point la démocratie américaine est en danger avec un ex-président qui se positionne comme un ennemi de la Constitution. Et la Constitution américaine, c'est le ciment qui permet à cette société qui est extrêmement divisée, polarisée, de continuer d'être ce qu'elle est. Et honnêtement, j'espère que les Américains vont se réveiller. Ça me désole de savoir qu'il est autant en avance dans les sondages, mais je me dis, je peux pas croire qu'à un moment donné, il y a pas quelqu'un qui va se réveiller. Puis ce qui est inquiétant, puis je lisais ça hier, c'est dans une chronique d'Elisabeth Vallet, publiée dans le Devoir, elle disait que là, il a un plan pour faire une purge, une grande purge au sein du FBI, dans l'état-major de l'armée américaine. Alors, ce gars-là carbure à la revanche, à la vengeance, et c'est rien de bon pour le climat qui est le climat qui
mais
va
hier,
se
il a interrompu,
déployer après son élection.
Il a interrompu les juges. Les juges, il avait interdit de plaider parce qu'il voulait plaider
c'est
sa
fou,
cause.
Hein?
Puis on dit non, c'est pas ça le système, tu sais, tu peux pas faire ça. Puis rappelez-vous qu'il a dit, si je suis condamné, le chaos va régner. Ben là, il s'assure lui-même que le chaos va régner parce qu'il explique que c'est de la vengeance politique. Puis là, tous ces militants, si jamais il est condamné, ils vont descendre dans la rue. On va avoir une répétition des événements du 6 janvier.
En plus.
Et à plus grande échelle.
À plus grande échelle.
Avez-vous déjà vu ça, un ex-président qui tient ce genre de discours? Je cherche le qualificatif, encore une fois, plus fort que surréaliste, plus fort que je me disais, bon, est-ce que c'est un despote en puissance? Enfin, je suis atterrée par ça. Puis nous, on est ses voisins, hein, on a une frontière commune avec les États-Unis et je trouve ça extrêmement préoccupant, ce qui s'en vient. Luc, as-tu un commentaire à faire là-dessus?
Ben, il va gagner, sans doute, parce que il s'intéresse à une chose à laquelle Biden s'intéresse mal. C'est la question de l'immigration illégale sur la frontière sud des États-Unis. Ça atteint des telles proportions que les gens disent, moi, regarde, c'est peut-être un clown, c'est un agent orange, c'est un imbécile, tout ce que tu veux, mais ils ont peur de ce qui se passe en ce moment. Ils ont peur de ce qui se passe en ce moment au sud des États-Unis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un vrai déficit de démocratie aux États-Unis. Ce n'est pas, tu sais, on le présente, ils se présentent, ils adorent se présenter comme la plus grande démocratie au monde, mais très peu de démocratie, très peu de gens qui votent par rapport aux autres pays démocratiques. Puis, moi, ce qui m'avait frappé au niveau municipal, il y a beaucoup de villes où le maire n'a pas de pouvoir. c'est un ça s'appelle des il y a les grands maires et les petits maires. Comme par exemple à Miami, le maire ne peut pas prendre de décision opérationnelle. Il vote des lois, mais il ne gère pas les budgets, puis il prend pas les décisions opérationnelles. Ça, c'est la fonction publique. La démocratie est pas si forte que ça aux États-Unis.
Mais il y a un système de check and balance dans la Constitution. Les pères de la Constitution avaient prévu ça, mais dans ce cas-ci, parce que Donald Trump s'en prend aux institutions comme il le fait, ça fragilise les remparts de toutes ces institutions qui sont développées, en fait, qui existent pour parer à un président qui devenait despote, par exemple. Alors, mais c'est vraiment extrêmement préoccupant. Enfin, on suit ça avec grand intérêt. Autre nouvelle qui a retenu mon attention, et c'est d'une tristesse inouïe, 2500 personnes aînées qui ont été évincées de leur RPA en un an. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a à maltraiter nos aînés de cette façon? Pour moi, c'est un crime tout d'abord, évincer une personne âgée de son logement, qu'elle soit en RPA ou en logement locatif. Et imaginez qu'il y a 615 résidences en RPA qui sont fermées depuis 2018. Il y a vraiment une hémorragie, une saignée importante. Et là, je me suis dit, tiens, ça prend une solution radicale, comme le dirait Luc Ferrandaise. Oui, monsieur, pour en fait renverser le contexte, renverser la tendance, je veux dire ça comme ça. Le gouvernement a mis en place un programme financier pour permettre aux propriétaires de RPA de souffler davantage, mais ça ne suffit pas. Et hier, je voyais à la télé, à Radio-Canada, je crois, un propriétaire de RPA dire « Écoutez, ça m'a coûté 300 000 $ installer mon système de gicleur. » Pensez-y deux secondes d'écart, là. T'as 30-40 personnes qui habitent dans ton RPA, dans ta résidence, et puis ça te coûte 300 000 $. Ça dépasse l'entendement. Honnêtement,
mais ça
n'a aucun sens.
C'est le grand incendie.
Je sais, oui, tout à fait. Mais Luc, honnêtement, là, si on prend un peu de recul, parce qu'il y a les gicleurs qui font très mal au RPA, même avec le programme d'aide financière, ils ne suffisent pas à financer. C'est majeur, 300 000 $. Puis l'autre chose, c'est les primes d'assurance qui ont augmenté et les normes, parce qu'ils doivent ils doivent rencontrer des normes commerciales.
Puis les assurances, c'est pas fini. Hein? On parle de 15 à 20 % d'augmentation.
Oui.
Là.
Oui.
Ça va pas dans le meilleur,
Ça va pas dans le meilleur. Alors, dans le fond, on fait quoi? T'sais, soit que le gouvernement met une barre, une hache dans toutes ces exigences qui sont formulées pour ces petites RPA, soit le gouvernement rachète certaines RPA pour éviter que certaines communautés soient confrontées à une fermeture de souvent de leur seul RPA dans leur communauté. Je pense pas qu'avec la solution actuelle, la ministre responsable des aînés va y arriver, Sonia Bélanger, même avec la meilleure volonté du monde, je crois qu'elle n'y arrivera pas. Autre nouvelle qui a retenu mon attention, les médecins de famille qui vont aider pour réduire la pression sur les urgences. C'est le Devoir qui titrait ça cette semaine. J'applaudis bien sûr. Ils vont ajouter des plages via le 911. Mais ce qui est assez fascinant, c'est que dans le cas des urgences, c'est le jour de la marmotte depuis 20 ans. À chaque saison de grippe, c'est l'enfer dans les urgences débordent. Puis en passant, c'est pas la situation qui prévaut au Québec, prévaut aussi ailleurs au Canada. Alors, je me suis dit, si les gouvernements qui se succèdent sont incapables de développer des mesures pérennes pour, tu sais, casser cette dynamique-là, pourquoi pas annoncer un plan de contingence et qui permettrait, à chaque saison de grippe, de déployer automatiquement des mesures pour éviter, comme on l'est actuellement, en réaction. Le ministre, non seulement est en réaction, mais lui et son ministère ont l'air de deux poules pas de tête. C'est vrai, c'est parce qu'il court dans toutes les directions, c'est la panique dans les urgences. Tu dis, ben voyons donc, ça fait 20 ans que l'histoire se répète. Je peux pas croire qu'au ministère de la Santé, il y a pas quelqu'un à quelque part dans ce ministère-là qui s'est pas dit à un moment donné, ben c'est sûr qu'il y a une ou des solutions qui existent. Mais là, je me dis, ben on n'est pas capable de développer des mesures pérennes, mais le plan de contingence qui est un plan d'urgence, tu sais, espèce de plan qui annoncerait une prévisibilité. T'sais, si, mettons, après un taux d'occupation, de mettons de 112% ou de 110%, bang, le plan se déclenche, comprenez? Mm-hmm. Et puis là, dans le fond, t'sais, on saurait à quoi, le personnel saurait à quoi s'attendre. À moins que vous ayez une meilleure solution.
Moi, moi je trouve ça très bon. Je trouve ça très bon mais c'est un peu à ça qu'il veut arriver avec l'Agence de la santé. Là. Il va avoir des mesures opérationnelles identiques d'une région à l'autre. Là.
Oui, ben ça, on en a parlé souvent là. Ça, c'est un autre débat là. Puis un dernier petit clin d'œil. Ben si vous volez avec Boeing, ben peut-être pourriez vous acheter un parachute en mettant dans votre valise. Boeing, une histoire absolument d'horreur. Je voyais qu'il y a 6 passagers qui poursuivent Boeing par rapport à cette porte qui s'est arrachée en plein vol. Ça s'est passé le 5 janvier dernier. Écoutez, l'avion volait à 16 000 pieds. Puis il y a des experts qui disent que si l'avion avait été encore, avait volé à une altitude encore plus haute, les séquelles chez les passagers auraient pu être bien plus graves parce que là, il n'y a pas vraiment eu de séquelles à part un gros traumatisme, évidemment. Mais cette compagnie-là, malheureusement, semble plus préoccupée par sa situation financière puis la valeur de ses actions à la bourse que la sécurité de ses appareils. Ils ne sont pas sortis de l'auberge, comme dirait l'autre.
Oui, mais une chance que l'autre qui a échappé son téléphone ne l'a pas perdu, finalement. T'as vu ça?
Ben oui.
Ben oui, il est tombé puis il marche encore. Ils vont faire une pub avec ça, tu peux être sûr.
C'est sûr.
On va faire la pause au retour. C'est Luc qui nous présente son rapport.
Ici Patrick Marcellet. Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves.
Écoutez dès maintenant l'épisode avec Geneviève Rioux.
Il y a tellement eu plus d'hommes qui m'ont tendu la main après ça que d'hommes qui m'ont fait mal. Je veux pas laisser les hommes qui blessent gagner. C'est pas supposé d'arriver une fois, encore moins deux fois. Ouais. Qui garantit que ça arrivera pas une troisième fois?
Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média.
Présenté par le regroupement des centres de prévention du suicide du Québec. Ensemble, tissons l'espoir.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, Luc, ton bilan de la semaine.
Mon âme est noire. Qui suis-je? Où vais-je? Je suis la nouvelle Norvège dont les blonds ciels s'en sont allés.
C'est de toi, ça?
Je l'ai pas vu venir.
Non, hein? Ben, non. C'est de Nelly Gant.
Pas le seul, Paul.
C'est Nelly Gant.
C'est Nelly Gant.
Ben
ah,
oui. Nelly Gant qui faisait une comparaison avec la Norvège alors qu'il avait jamais mis les pieds en dehors du Corée-Saint-Louis. Mais, tu sais, ben, je parle de ça parce qu'hier, j'ai parlé de la Norvège. Moi non plus, j'aime la Norvège. Oui. Pour faire de la politique comparée, la poésie, c'est moins le fun que l'analyse et l'étude. Donc, hier, je fais la comparaison entre les médecins de Norvège et les médecins du Québec. Norvège, les médecins, sont obligés d'avoir 1200 personnes dans leur caseload en anglais. En français, on dirait dans leur... sont obligés d'avoir un bassin de 1200 patients dont ils s'occupent. Ils sont obligés de répondre si ces patients-là demandent un rendez-vous avec un délai bien précis. Et le président de la FMOQ, qui était à mon émission l'après-midi, Dr. Amiot, qui me dit « Ouais, mais là, t'arrêtes de pousser, là. C'est pas pareil pantoute. » Premièrement, ce sont deux fois plus de médecins que nous. Et là, il avait un bon point, donc deux fois plus de médecins. Et moi, de lui répliquer, oui, c'est vrai, mais ils sont deux fois moins payés. Ce qui est quand même surprenant, parce que la Norvège, c'est le niveau de vie est trois fois plus élevé qu'au Québec, fait que en termes de prix, là, tu sais. Et donc, mais ils sont quand même deux fois moins payés, fait qu'ils sont pas beaucoup payés, les médecins norvégiens, mais ils sont très nombreux. Et bien qu'ils soient très nombreux, et bien qu'ils soient moins payés, là-bas aussi, ils commencent à avoir des problèmes avec l'accessibilité aux médecins. Ils sont obligés de travailler des très longues heures à cause du vieillissement de la population. Et pourtant, ils ont un paiement à faire. Là, ils ont un paiement automatique à faire qui est l'équivalent de 10$ selon notre niveau de vie.
Moi, je suis allé en Suède. J'ai une Norvège aussi, là, ouais. Mais en Suède, puis il y avait une guide là, qui nous faisait visiter. Elle me parlait du système de santé. T'avais un montant à payer, on appellerait ça un ticket modérateur, mais c'était comme une contribution.
Oui.
Mais il y avait un plafond.
$400 par année.
Maximum. Puis elle, c'était moins que ça dans le temps. Là. Okay. Mais c'était... Alors, ce qui faisait que des patients qui ont des problèmes chroniques se vidaient pas les poches. Puis ceux qui, mettons, j'ai-tu vraiment besoin d'y aller, pas certain, peut-être que... Ils hésitent un peu avant de... Parce que t'as un petit montant à payer.
Ben, c'est une partie de la solution, mais je trouvais ça intéressant de faire une comparaison en dépassant le carré Saint-Louis entre la Norvège puis le Québec, parce que tu vois, il y a plein d'éléments. Là. Ils sont payés moins cher, ils sont plus nombreux, ils ont un ticket modérateur, ils ont un système de prise de rendez-vous. Puis nous, mais Dr. Amiot me dit, ouais, mais on est en Amérique du Nord, on est à côté du pays qui paye les médecins le plus au monde. Puis on est à côté de l'Ontario, un autre endroit où ils les payent beaucoup. On peut pas faire le paiement qu'ils font en Norvège ou en France, là. Ils sont deux fois moins payés en France aussi. Et puis c'est la politique comparée. C'est dire, oui, mais qu'est-ce qu'on peut prendre quand même de leur système? Parce que nous autres, on a tous les désavantages d'être à côté du pays qui paye les médecins le plus au monde. mais avec un système où il n'y a pas de concurrence entre les médecins parce qu'on refuse les médecins à l'entrée, tu sais. Comment ça se fait qu'on demande à un médecin qui a pratiqué en France, en Belgique, en Suisse, en Tunisie, de refaire des examens pour rentrer ici? Pas de concurrence entre les médecins. Des listes d'attente à pu finir. Alors, en Norvège, avec deux fois plus de médecins, ils ont des problèmes d'accès. Imagine-toi, ouais. Nous autres. On n'est pas sortis.
Mais demandez pas aux Québécois de donner une contribution, là, additionnelle. On paie déjà pour l'assurance médicaments.
Ah, une petite contribution.
Les Québécois, ouais, mais quand même, les Québécois paient des impôts à malades. C'est ce qu'ils vont dire, là. Puis en
plus, Norvège aussi.
Combien ils sont obligés d'aller dans le secteur privé ou privé actuellement parce qu'ils n'ont pas accès soit à leur médecin, soit à un médecin de famille, l'opération vient pas. Non,
mais ça, ouais, sur le ticket modérateur, je le sais pas, mais l'avantage du ticket modérateur, mais par contre l'avantage d'augmenter l'offre de médecins, il me semble que ça. Augmenter le nombre de médecins en modifiant les règles d'accès, ça me semble que c'est une bonne piste.
On verra, comme dirait l'autre.
Bon, OK.
Monsieur Legault, on verra.
Accusé de génocide.
On pourrait en faire un débat, peut-être,
intéressant.
De ce que tu soulèves, là. Oui, ouais, c'est ça.
Bon, ben Israël, vous l'avez vu, tout le monde l'a vu et revu sur les écrans, accusé de génocide devant la Cour internationale de justice. Toute une affaire. Donc, un éditorialiste israélien qui se demande si Israël n'a pas perdu son procès le premier jour. Et ça, c'est un éditorialiste israélien, là, je fais attention de le dire, là. C'est pas moi qui arrive avec cette affirmation-là. Pour démontrer qu'il y a génocide, faut que tu démontres qu'il y a une intention d'éliminer un peuple de toutes les façons possibles, là, différents moyens, la guerre, touchant délibérément les civils, le refus de l'aide humanitaire, la famine, d'autres procédés qui visent à éliminer un peuple. Et évidemment, les avocats israéliens, ce qu'ils ont dit, ben non, nous autres, hein, c'est pas ça qu'on a voulu faire. Là. On a voulu se défendre contre un acte horrible. Cet acte horrible-là a déterminé la nature de la réponse. Plus c'est horrible, plus il faut que tu agisses de façon massive. Et en même, on a une responsabilité de se défendre, une responsabilité, parce qu'avec ce type d'attaque-là, on peut penser que on est à risque nous-mêmes de subir un génocide. Et les avocats de l'Afrique du Sud ont littéralement écrasé l'argument israélien en quelques coups de cuillère à peau. D'abord parce que dans la loi sur le génocide, dans la règle sur le génocide, il faut dire qu'il y a une intention de. Or, ils ont cité des ministres, plusieurs ministres faisant partie du cabinet et même de la cellule de guerre d'Israël. Donc, pas des pecnos, qui s'agitent en arrière des banquettes du pouvoir. Ils ont cité des ministres qui disent « Ce sont des animaux humains. Nous allons leur interdire l'eau, la nourriture et l'électricité, ce qu'ils ont fait. Nous allons leur interdire l'accès à des programmes d'urgence ou des programmes d'aide humanitaire, ce qu'ils ont fait. Détruire les maisons où ils habitent, ce qu'ils ont fait. Puis après une déclaration où un des ministres dit l'idéal, c'est qu'il n'en reste que 100 000. Alors, avec ces déclarations-là, c'est dur de dire qu'il n'y avait pas d'intention. Mais le pire du pire du pire, c'est qu'il y a eu un vidéo. Ils ont obtenu un vidéo. C'est tout un bataillon israélien, donc plus que 100 personnes, pas mal plus que 100 personnes, qui font des chants et des danses à la manière des fêtes, des célébrations religieuses juives. Ils sautent sur place, tu sais, comme ils font parfois les assidiques. Mais les paroles de cette chanson ne sont pas des paroles religieuses. C'est une chanson qui dit « There are no uninvolved citizens ». Donc, tous les citoyens, quels qu'ils soient, sont impliqués. Il n'y a pas simplement les membres du Hamas, c'est toute la population de Gaza. Avec ces éléments-là en main, il y a pas mal de monde qui pense que le cas va être très, très dur à défendre par Israël.
Luc, le premier ministre israélien a décrit la guerre comme une lutte entre les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres, entre l'humanité et la loi de la jungle, imagine. Les mots sont très, très forts.
Ouais.
23 000 morts, femmes et enfants, 56 000 blessés du côté palestinien, du côté de la bande de Gaza en un mois. Fait que les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein, sur le massacre qui a
C'est un massacre. C'est un massacre. Et en plus, c'est bien que tu me rappelles les chiffres parce que la défense israélienne consiste à dire nous sommes défendus. Puis, dans les termes même de l'accusation, la défense n'est pas un prétexte pour exercer une telle barbarie. Les enseignantes sont payées 44% plus cher au Québec qu'en France quand elles commencent leur travail avec la nouvelle convention collective et 88% plus cher quand elles terminent leur carrière. Alors, on a des enseignantes qui sont très bien payées dorénavant. Et il faudrait le reconnaître, puis il faut s'en servir comme un outil pour aller en chercher d'autres si on en a besoin, parce que avec ces niveaux d'écart là, on est capable de et comme a réussi d'ailleurs l'Abitibi avec les infirmières. Mais vous avez vu cette belle histoire là de la grande séduction, ils sont allés chercher, ils visent à aller chercher 100-130 infirmières d'ici 2030. Ils sont allés en chercher 50% jusqu'à présent. Ils ont accueilli magnifiquement. Ils les accueillent, leur donnent, ils leur trouvent des maisons, des meubles, du linge. Ils leur trouvent des places en garderie. S'il n'y a pas de place en garderie, ils ont créé des places en garderie. Un très beau travail dans l'Abitibi-Ouest, la région de Lassard. Alors, je pense qu'on est capable d'aller chercher beaucoup, beaucoup d'enseignantes manquantes avec des salaires puis des programmes comme ça.
Luc et Paul, est-ce que c'est éthique de recruter, par exemple, des infirmières dans des pays dits en voie de développement du côté en Afrique, par exemple? C'est Christine Saint-Pierre qui a rédigé un texte dans l'actualité il y a plusieurs semaines de ça qui questionne les choix du Québec et des CIUS qui, très agressivement, vont sur le continent africain pour... Puis il y a des gens là-bas qui sont sans... Des leaders dans les communautés qui sont sans connaissance, qui déplorent ce genre de politique, ce genre de stratégie déployée par le Québec. Ça, tu vois, on n'a pas encore fait ce débat-là au Québec.
Oui, bon point. Comme Cameroun, Algérie, Haïti, exact. Maroc. Tu sais, des endroits où une infirmière présente dans un village peut faire changer beaucoup de choses.
Là. Merci. Oui, merci à tous les deux. On vous retrouve, bien sûr, lundi, après ce week-end de neige.
C'est 23.
Recule un peu, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse. Crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.